بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour chers tous, bienvenue dans mon premier podcast intitulé Le voile, réponse aux sceptiques. Partie 1, aux origines du scepticisme, définition et méthodologie. Avant d'entrer dans les détails, je me permets une introduction. Je suis Radija, c'est mon surnom de convertie. J'ai gardé mon prénom de française, de naissance, que mes parents m'ont donné dans la vie courante. Mais j'aime bien le prénom Radija. Mon mari m'appelle parfois comme ça et c'est un prénom que j'utiliserai pour mon site. Je suis spécialiste en sciences humaines. J'ai étudié à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, beaucoup de matières dans le domaine notamment du développement, c'est-à-dire l'histoire du développement, comment les pays sont sortis de la pauvreté, l'économie du développement, la sociologie et l'anthropologie du développement. C'est des domaines qui m'ont vraiment passionnée lorsque j'étais étudiante. Je me suis d'ailleurs spécialisée sur l'Afrique de l'Ouest, où j'ai séjourné à plusieurs reprises. Et il y a 6 ans, je me suis convertie à l'islam. Ça m'a tout de suite vraiment pris, on va dire. Donc, je suis de suite rentrée dedans, alhamdulillah. Du coup, bon, je me pense assez légitime pour parler de religion. Je pense que je peux partager pas mal de choses sur mon parcours et d'ailleurs je pense que toute personne qui a un intérêt pour un sujet quelconque a beaucoup plus de savoir et de science qu'elle ne l'imagine et a tout à gagner à oser partager ce qu'elle sait. C'est un peu ce qui motive mon site et ce podcast qui va s'inscrire dans la suite de l'article que j'ai publié le 2 mai. Intitulé Le voile en islam, parcours personnel et analyse théologique. Donc, je voulais préciser aussi que j'ai été admise en doctorat en études religieuses à l'université des études religieuses, à l'université de Montréal, l'Institut des études religieuses. Mais j'avais bien fait la salat istirhala, c'est-à-dire la prière qu'on fait lorsque on a une affaire qui va débuter, on va dire, ou qu'on a un questionnement, et puis j'avais vraiment demandé à Dieu de me le faciliter si c'était bon pour moi et de me l'éloigner si c'était mauvais. Et alhamdoulillah, j'ai vraiment senti avant même de débuter que ça ne serait pas un institut dans lequel j'allais m'épanouir. Il y avait pour plusieurs raisons, dont un manque d'objectivité, je pense, et de crédibilité de l'institut. Mais grâce à Dieu, récemment, Ismaël Mounir, il se nomme propagateur de sagesse, il a créé une page, en fait, enfin, YouTube, une chaîne YouTube vraiment performante. Je vous invite tous à, si vous ne le connaissez pas encore, à vous abonner et le suivre. Et il est enseignant de religion dans un institut qu'il a maintenant mis en ligne. Donc ça s'appelle la plateforme Ismaël Mounir et je suis étudiante au sein de cette plateforme. Donc ça m'a aussi permis d'augmenter ma légitimité et de me lancer pour ce site. Mon site s'appelle as-sirat.com. Donc allons-y pour ce premier podcast, partie 1, aux origines du scepticisme. Pourquoi ce titre? Donc le voile suscite beaucoup de passion, beaucoup d'interrogations et beaucoup de gens le rejettent directement. Il suscite beaucoup de passion et de réticence. Donc qu'est-ce que le scepticisme? Le scepticisme vient du grec skeptikos, donc ça signifie qui observe, réfléchit. C'est attesté dans la langue française dès le XVIIe siècle, comme un terme qui caractérise la philosophie, comme un terme donc philosophique pour caractériser une personne qui pratique le doute scientifique, c'est-à-dire une personne qui va remettre en cause ce qu'elle sait. Et ça prendra plus tard la notion actuelle, ce qu'on entend par sceptique, quelqu'un de sceptique, quelqu'un qui ne croit pas en ce qu'on lui dit, qui attend toujours des preuves et sinon qui n'accepte pas ce qu'on peut lui dire. On pourrait dire que le sceptique, tant qu'il n'a pas vu, il ne croit pas. Ça me rappelle une phrase qui est dans la Bible de Jésus qui dit à un de ses apôtres qui ne croyait jamais, tu as cru parce que tu m'as vu, heureux celui qui croit en moi sans me voir. Ou du moins, l'idée est là, je ne sais pas dans la traduction exacte. Donc le doute, dans la notion grecque, dans la notion antique de skepticos, le doute est une bonne chose, en ce sens que l'on se doit de comprendre les raisons profondes de nos choix. Avant de défendre une cause, avant de la critiquer, il est nécessaire de l'étudier. Il est donc tout à fait acceptable de ne pas avoir d'avis partisan sur la question du voile, du moment où on n'a pas réellement étudié cette question. Les sceptiques grecs de l'Antiquité ne niaient ni n'affirmaient rien. Alors ils auraient dit, par exemple, le voile, est-ce qu'il faut le porter? Peut-être il faut le porter, peut-être il ne faut pas le porter. C'était ça l'idée en fait. Le sceptique niait la possibilité de connaissance absolue et se refusait d'admettre une chose sans son examen critique. Donc, cette forme de méthodologie, cette forme de réflexion préalable, je pense que c'est quelque chose de nécessaire en fait, pour comprendre les pratiques religieuses en général. J'en veux une illustration, celle des écoles juridiques de l'islam sunnite. Donc on va donner quelques définitions, encore une fois, et puis on va parler de ces quatre grandes écoles. Donc en arabe, le terme c'est manhab. Elles vont prouver que l'islam est le contraire de l'obstination aveugle, le contraire de ce qu'on pourrait penser comme arriéré d'une autre époque, qui ne s'adapte pas, qui ne réfléchit pas. Au contraire, par cette illustration que je vais vous donner, nous allons voir que l'islam, c'est la réflexion. L'islam, c'est l'approfondissement. C'est la remise en cause des certitudes. Parce que oui, certes, les musulmans croient au Coran et en la Sunna. C'est les deux sources de législation en islam. Le Coran, révélé directement par Allah via l'ange Gabriel, Djibril, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la Sunna, qui est l'ensemble des dires et des pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui elles aussi sont considérées, qui elles aussi, les pratiques, sont considérées comme inspirées directement par Dieu. Donc on se réfère toujours en islam au Coran et à la Sunna pour tout ce qui est dans nos vies, dans nos pratiques, dans nos croyances, dans ce qu'on doit appliquer au quotidien. C'est nos deux sources. Pour ce qui est de la Sunna, donc, elle nécessite un recueil de hadith, c'est les paroles prophétiques, ce dont je viens de parler. Donc pour les recueillir, tout ça, il faut beaucoup de science. C'est pas donné à tout un chacun. Personne n'a le. Enfin, tout un chacun n'a pas le devoir de connaître tous les hadiths, etc. Par contre, il nous faut des maîtres de pensée, en fait, des gens qui ont fait ce travail-là. Et il nous faut les suivre. Par simplicité, par nécessité même, pour pouvoir pratiquer. On ne peut pas tous devenir ingénieurs en islam. Donc, quatre grandes écoles sont apparues en la matière. La première, enfin, il n'y a pas d'ordre hiérarchique, mais je vais les citer. Donc, il y a les Hanafites qui vont du nord-ouest de la Chine jusqu'à l'Europe de l'Est, donc en passant par le Kazakhstan, l'Irak, le Pakistan, Bangladesh, jusqu'aussi à l'Égypte et à la Turquie. Il y a ensuite les Malikites, qui sont situés principalement en Afrique du Nord, excepté l'Égypte, et en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Il existe également donc les Chaféites, qui sont situés en Asie du Sud-Est, Indonésie, Malaisie, dans l'océan Indien aussi, et jusqu'à la Corne de l'Afrique, en passant par l'Afrique australe. Donc Somalie pour la Corne de l'Afrique, par exemple, et puis on descend le Kenya jusqu'aux îles Comores, par exemple, ou à Madagascar, où la communauté musulmane est aussi importante. Donc on a dit Hanafite, Malikite, Chaféite et Hanbalite, principalement situés en Arabie Saoudite. Donc ces quatre écoles ont des petites divergences dans les pratiques, mais des divergences qu'on pourrait caractériser de mineures. Sur tous les fondements islamiques, elles sont d'accord, et sur certains détails, il y a des variations. Pour autant, ces écoles se respectent mutuellement. Elles se respectent, elles peuvent même s'enrichir, mais par souci d'harmonisation des pratiques, on demande par exemple à un savant qui est un savant un étudiant en théologie marocain va se devoir d'apprendre dans la forme malikite la pratique. Ça ne veut pas dire qu'il rejette les autres écoles, ça veut dire qu'il va enseigner plus tard dans ce pays où les autres aussi ont appris et pratiquent le malikisme, on va dire. Donc, il ne peut pas amener des variations qui amèneraient un désordre. L'islam se veut cohérent. Ça ne veut pas dire que on ne doit pas non plus, nous qui vivons, d'autant plus nous qui vivons dans des pays ou qui sont non musulmans et où différentes communautés, suivant de différentes régions du monde, toute la communauté musulmane, mais de différentes régions du monde cohabitent, ça ne veut pas dire qu'on doit affirmer que non, nous, on est d'origine marocaine, donc forcément, on est malikite et on ne veut pas du tout apprendre de la pratique de l'autre. Ça n'a rien à voir et c'est pas, ça n'empêche pas les mariages tout le inter-école. Ce n'est pas du tout contraignant. C'est juste, surtout donc, comme je disais, quand on n'habite pas dans les pays en question. J'espère être claire. En fait, ces écoles sont là pour s'unir et non pas pour se diviser. Et on se respecte mutuellement. Il n'y en a pas une qui a plus raison que l'autre. C'est ça que je veux dire. Et j'en veux pour preuve ce que disaient les imams qui ont donné le nom de ces écoles eux-mêmes. Donc je vais vous citer quelques passages. Par exemple, l'imam Malik a dit: Certes, je ne suis qu'un humain qui se trompe comme il peut voir juste. Vérifiez donc mes opinions. Il y a aussi, donc, ça c'est pour l'imam Malik, l'imam Shafia a dit quant à lui: Il n'y a pas une personne à qui la sunna lui soit parvenue tout entière. Alors si je dis une parole ou donne une règle qui contredit la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prenez sa parole, car c'est aussi la mienne. L'imam Shafia a aussi dit: Ne m'imitez pas aveuglément. Donc on rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires où on voit clairement que si on leur rapportait un hadith véridique qu'ils ne connaissaient pas, ils changeaient leur pratique sans problème pour se conformer à la parole du prophète. On dit que l'ego est l'ennemi de la foi. L'ego est l'ennemi de la foi. Pourquoi? Parce qu'il nous éloigne en fait de l'essentiel. Des fois, les gens, et ça c'est croyant comme non-croyant, les gens ont beaucoup de mal à remettre en question leur certitude, à modifier leur façon de penser, comme s'ils se trahissaient eux-mêmes. Alors que c'est totalement l'inverse qu'il faut penser. Les êtres humains vivant longtemps, on se doit, en général, on a quand même une espérance de vie assez longue, on se doit d'évoluer positivement, de chercher la vérité. Donc dans cette recherche de la vérité, personne ne l'a de façon innée. Donc il est normal qu'on évolue dans nos perceptions, dans notre vision des choses. Donc pourquoi je parle de ces quatre écoles et pourquoi je parle de cette ouverture d'esprit et cette capacité à la remise en question, parce qu'elle traduit ce qu'est l'islam. L'islam, c'est une quête de la vérité. Donc, rappelons-nous par exemple le mythe de la caverne de Platon. Qu'est-ce que c'est que le mythe de la caverne de Platon? C'est une caverne avec au fond de la caverne des hommes qui ont été enchaînés et qui ont été aveuglés depuis toujours. Donc, ils aveuglés par l'obscurité, par l'obscurité, donc ils ne voient rien, seulement on leur fait miroiter. Il y a des, au fond de la caverne, il y a l'ombre de certaines marionnettes que certaines personnes, on pourrait dire des maîtres, leur montrent les ombres de ces marionnettes, et pour eux, c'est ça la réalité. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient au fond de la grotte des ombres qui bougent. C'est leur réalité. Ils imaginent que ça, c'est la vérité. Puis on les détache et on leur fait accéder à une deuxième partie un peu moins profonde, un peu plus haute de la caverne. Et là, ils se rendent compte qu'on leur a menti, qu'il s'agissait en fait de marionnettes. Et c'est dur, c'est difficile. L'accession à la vérité est toujours douloureuse. Je vous ai dit que j'étais un peu spécialiste du développement. On dit que le développement est un arrachement. Donc oui, ça fait mal de se rendre compte qu'on s'est trompé. Et après ça, carrément, on leur fait. Donc ils voient que c'est des marionnettes. Et pour eux, les marionnettes sont la réalité. C'est pas quelque chose de fabriqué, c'est pas quelque chose qu'on manipule, non. C'est leur réalité. Puis enfin, on les amène hors de la caverne. Et là, ils ont mal carrément. Ils sont éblouis par le soleil. Parce que c'est la première fois qu'ils voient la lumière du jour et tout leur monde se déconstruit. Donc ça, c'est vraiment la métaphore de l'accession à la connaissance. Et on peut même dire que, on peut même rappeler que le soleil, c'est la chose qui nous permet, grâce à Allah, de voir, de vivre, on tourne tous autour. Enfin, on tourne tous autour. Donc, il est quand même essentiel à tout dans notre vie. Pourtant, on ne peut pas le regarder. On ne peut pas. On se brûle les yeux, ça nous ferait trop mal. Donc, ça, c'est pour se rappeler aussi de la quête de la connaissance. La quête de la connaissance, la quête du savoir, c'est quelque chose à toujours, toujours, toujours renouveler, à toujours essayer de vivifier. Donc, je pense que voilà, ces écoles juridiques nous en donnent une belle illustration par leur capacité à se remettre en question. Et j'aimerais qu'on s'en inspire pour mettre en place une méthodologie. Une méthodologie qui va concerner toutes les questions sociétales que l'on veut conformiser à notre pratique de l'islam. J'entends par là qu'il faut accepter que l'on ne sache pas tout. Il faut accepter qu'on remette en question certaines de nos croyances qu'on n'a pas approfondies, certains de nos préjugés. Et pour ce faire, on doit se rapporter, quand on est musulman, quand on est croyant, à quoi? Au Coran et à la Sunna. Pour toutes les questions quotidiennes, toutes les questions qui nous concernent, pour le voile, pour l'héritage, pour le crédit. Il n'y a pas de dichotomie entre la sphère privée et la sphère publique en islam. Tout est un, tout est unifié. Donc bien sûr que l'islam, c'est le cœur, c'est la proximité avec Allah, que c'est ça qu'il faut travailler, notre relation à Allah, que c'est l'essentiel. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas également des règles. Et se conformiser aux règles est censé nous rapprocher d'Allah. Donc, chaque question sociétale amène à d'autres questions sociétales. Par exemple, pour ce qui est du voile, ça nous ramène au statut de la femme, qui nous ramène à la relation homme-femme. Pour ce qui est de l'héritage, ça nous ramène par exemple aux responsabilités homme-femme. Pour ce qui est du crédit, ça peut nous ramener à tout ce qui est bonnes œuvres, charité, système économique. J'en veux pour preuve le fait que, par exemple, prêter de l'argent gratuitement ou prêter de l'argent contre une rémunération, ça ne peut pas être mis sur la même échelle de valeur. Autant en termes de balance, là, il y a deux poids, deux mesures. Donc, je voudrais qu'on comprenne qu'il ne faut pas adapter la religion à nos besoins. C'est pas comme ça que cela doit fonctionner. On doit, à la place de cela, réfléchir à nos besoins en fonction de ce que va nous apprendre la religion. Plus on va étudier la religion, plus on va ajuster nos besoins, les remettre en question eux aussi, les réévaluer et les faire se conformiser un peu de même d'ailleurs. C'est l'envie va se faire toute seule de conformiser du coup ses besoins à notre pratique. Voilà, le croyant doit prier. Ça, c'est le souci de tous les croyants. Ils veulent prier. Il y en a qui arrivent plus ou moins, mais quand on est musulman, on admet que la prière est obligatoire. Maintenant, quand on vit en Occident, quand on a un travail quotidien dans une entreprise, comment est-ce que je peux conformiser ma nécessité de prier avec mon travail? Voilà, on ne va pas se dire, bon, Allah nous a dit qu'il faut travailler, j'ai besoin de travailler, donc travailler c'est une forme d'adoration, je peux travailler et délaisser ma prière. Ça serait se voiler la face. On est d'accord. Au contraire, on doit trouver un équilibre entre le travail et la prière sans la délaisser. Et avec des adaptabilités possibles. Il en est de même pour toutes les questions d'ordre religieux, donc le voile. Donc voilà ce que je vous propose en termes de méthodologie. Dans un premier temps, il faut qu'on fasse une recherche théologique, à savoir, quelle est l'injonction divine? Que dit le Coran? Que dit la Sunna? Par exemple, pour le voile. Et là, on a vu dans l'article que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore fait. L'article que j'ai publié donc sur le voile, on a vu dedans que le Coran nous recommande en fait le port du voile par différents ayats. Donc voilà, on cherche l'injonction divine, on cherche ce qu'en dit le Coran et ce qu'en dit la Sunna. On peut chercher cela dans des livres, on peut chercher cela auprès de savants, mais on doit surtout le chercher de par nous-mêmes, car l'islam a été un peu trop déconnecté de nos cœurs parce qu'on n'a pas voulu trop. On a craint que ce soit une religion trop complexe, une langue trop difficile, donc on l'a délégué aux savants, alors que non, tout le monde est capable de comprendre. Le Coran est quelque chose de merveilleux en ce sens que tu l'ouvres, tu lis un ayah et il parle à ton cœur directement. Donc ça serait très dommage de se dire non, je ne comprends pas bien, je ne peux pas saisir de moi-même, je vais aller voir un savant et il va m'expliquer. Non, le Coran est vraiment pas descendu dans ce sens. Il est universel, il parle à tout le monde en tout temps. Donc il faut vraiment arriver à se rapprocher de ce grand bonheur qu'il contient en cherchant à le comprendre. Et il y a beaucoup de méthodes aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de facilités, il y a les traductions en arabe. Des traductions vers le français qui peuvent quand même faciliter beaucoup de choses. Dans les cellulaires, par exemple, on peut faire des recherches par mots, donc on peut taper héritage et retrouver tous les ayats qui traitent de la question, de même pour la question du voile. Donc c'est quand même une grande facilité pour qui veut trouver des réponses. Donc une fois qu'on a trouvé ce qu'en dit le Coran et la Sunna, on doit accepter. Admettre et accepter. Même si on ne comprend pas forcément, on sait que Allah est omniscient, qu'il est le plus savant, donc déjà on accepte. On ne peut pas remettre en question ce qu'Allah a choisi pour nous. Donc, et on passe à l'étape 2. Donc, première étape, recherche théologique. Étape 2, intériorisation. Intériorisation. Quelle est la sagesse de cette injonction divine? Pourquoi Allah nous a prescrit cela? Quels sont les avantages? Ça, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans l'article aussi auquel je vous renvoie. Et ensuite, on va faire des élargissements. Parce que dans la vie, rien n'est non plus tout noir, tout blanc et tout simple, quoi. Donc, il y a des élargissements à faire en se demandant quels sont les domaines qui rentrent en relation avec le point que je viens d'étudier. Y a-t-il des contradictions, des ajustements à faire? Par exemple, en termes de voile, quels sont les domaines de ma vie qui sont confrontés à cette question? Donc, il peut y avoir, comme j'en parle dans mon article, moi par exemple, quand j'étais pas encore voilée, je trouvais que voilà, j'avais envie de partir prier à la mosquée, mais j'étais pas encore voilée, donc ma tenue vestimentaire. Pourquoi j'avais une tenue vestimentaire différente quand je vais à la mosquée, comment je fais pour la mettre, ça c'est, ça peut, enfin, ça rentre en ligne de compte. Comment est-ce que je vais faire avec mes voisins, par exemple, pour d'un coup leur apparaître voilée, alors qu'auparavant ils m'ont toujours vue dévoilée. Avec mes amis, avec ça c'est une question qui rentre en ligne de compte. Comment je vais leur amener cette question-là? Dans mon travail, comment puis-je concilier ma vie active avec le port du voile? Donc ça, c'est les élargissements. Et là encore, je peux faire une recherche, je peux revenir au point 1, refaire une recherche théologique. Que me dit l'islam sur le comportement que je dois adopter envers mes voisins? Que me dit l'islam sur le fait que la femme travaille? Que me dit l'islam sur... voilà, c'est ça. Que me dit l'islam sur... y a-t-il contradiction entre différents concepts? Comment puis-je faire concilier au mieux ces différents sujets en fait qui entrent en collision, on va dire, en moi-même, sans en délaisser un? Donc, et là, une fois qu'on a fait ces élargissements-là, qu'on a essayé de tirer un peu le vrai du faux et de tirer aussi le pour et le contre, en tout cas, on sait quelle est la ligne vers où on veut aller, mais on a des obstacles à surmonter, donc on les étudie aussi. Et là, on en vient au point 4 qui est les accommodements. Donc, on entre dans la notion de contrainte et d'adaptabilité. Mais il nous faut toujours avoir un leitmotiv, à savoir la sincérité. Rappelons-nous le premier des hadiths de Nawawi, à savoir que c'est l'intention qui prime dans toute action. Il faut toujours avoir la bonne intention. Et qu'est-ce que c'est que la bonne intention, en fait? Est-ce que c'est vouloir faire quelque chose de bien? On a l'impression que c'est ça la bonne intention. Même quand on dit en français l'enfer est pavé de bonnes intentions, bon ben il voulait son bien, en fait ça lui a fait du mal, mais c'est ça, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais la bonne intention en islam, c'est pas ça. Avoir une bonne intention, c'est pas vouloir quelque chose de bien. Et qui pourrait avoir d'ailleurs un mauvais résultat, et puis au fond, bon, c'est pas grave parce qu'on a voulu faire quelque chose de bien. Ça, c'est une erreur courante qu'on fait derrière l'idée d'avoir une bonne intention. Avoir une bonne intention en islam, c'est plaire à Allah. Avoir une bonne intention, c'est se conformer à ce que nous demande notre Créateur. Vouloir satisfaire Allah. Et ça ne va pas du tout, j'allais dire pas forcément, parce que oui, ça ne va pas forcément à l'encontre de satisfaire les gens, mais pas tout le monde. Ça ne satisfera pas tout le monde. Quand on a de toute façon des convictions, on ne peut pas vouloir que tout le monde adhère à nos convictions. Mais pour être véritable avec soi-même, pour se sentir bien et heureux, on doit se conformiser avec nos aspirations profondes et oser réaliser nos propres convictions. Et donc, qu'est-ce qui va les motiver? En premier lieu, ma sincérité avec Allah, vouloir plaire à Allah. Et ça va se faire aussi pour le bien des autres. Enfin, ça va aussi se conformiser avec le bien des autres. En général, Allah, ce qu'il veut de bien, de toute façon, pour Allah, quand il veut quelque chose pour toi, c'est pas censé faire du mal à autrui, de toute façon. Donc, c'est pour ça qu'on dit aussi, il y a beaucoup de gens, ils disent Alhamdulillah, Alhamdulillah, au lieu même de remercier les gens. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas remercier Allah. Attention, on doit toujours remercier Allah. Alhamdulillah, c'est très important. Mais quand quelqu'un te fait un repas, par exemple, il t'invite, il te fait à manger, tu te régales, tu es content, tout ça, tu lui dis quand même merci aussi. Alhamdulillah, tu as une belle table et merci beaucoup. Qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. On est d'accord. Faire quelque chose fisabilillah, faire quelque chose pour plaire à Allah, ça ne va pas du tout à l'encontre de plaire aux gens. Mais ça ne veut pas dire plaire à tout le monde. Et vouloir plaire aux gens, par contre, ça peut vouloir déplaire à Allah. Et là, c'est la question de la sincérité. Des grands savants, des très très grands savants qui ont commencé à avoir du succès, se sont exilés pendant 10 ans. J'ai pas le nom en tête du savant exactement, mais une fois le succès qu'il a pris, il a senti que sa sincérité risquait de diminuer. Et il s'est exilé pendant 10 ans pour faire un ouvrage, et quand il est revenu, il a dit, si un seul de mes actes à ce jour est sincère envers Allah, enfin, c'est pas qu'il sera, je me demande si j'ai fait un seul acte avec sincérité, en entier, quoi, juste de la sincérité. Parce qu'on cherche souvent à satisfaire d'autres désirs qui sont plus de l'ordre de l'ego que de l'ordre du fisabilillah. Donc, c'est ça, je résume juste les 4 points méthodologiques que je propose pour toute question d'ordre courante. En premier, on recherche au niveau théologique qu'est-ce qu'il en est. Puis, on intériorise cette injonction divine en se demandant quelle est la sagesse, pourquoi et pourquoi je jeûne, pourquoi je prie, pourquoi je me voile, pourquoi je dois donner un plus gros héritage à mon fils qu'à ma fille, pourquoi, avant avant de ramener les contraintes que cela m'amène, je me demande d'abord, je renforce ma conviction. Ensuite, je fais des élargissements en me montrant avec quelles questions cela entre en conflit, ou au contraire, ça peut même entrer en bonne relation avec d'autres questions et j'élargis encore. Et enfin, je pose des accommodements, je cherche des adaptations possibles et ça, on va en parler dans la troisième partie de mon podcast, après avoir traité dans la deuxième partie de ce que dit la Sunna sur le port du voile, puisque j'en parle presque pas dans mon article. Le prochain podcast traitera de la Sunna et du voile. Et puis le dernier traitera de la dernière partie que je ferai ensuite. Troisième et dernière partie traitera du voile, des accommodements possibles, du statut de la femme dans la société, du fait qu'on se demandera si la femme qui ne travaille pas, par exemple, est forcément assistée. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour la femme aujourd'hui de s'émanciper par le travail, ou est-ce que elle peut s'émanciper d'une autre manière? Donc on traitera aussi des relations homme-femme, mari-épouse, et de la place donc de la femme dans la société, de sa capacité aussi à être autonome ou salariée, et puis des différentes, comme je disais, des différents accommodements qui sont possibles en matière de port du voile, et je vous ferai part de ma propre expérience en tant que convertie, en tant que fille de parents non musulmans. Donc voilà, en espérant vous avoir été utile. N'hésitez pas à commenter, partager vos critiques, qu'elles soient positives ou négatives. On est là pour s'enrichir mutuellement. Et je vous dis à très bientôt. Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.